RFI de retour à Paris où il est 9h, 7h en temps universel.
RFI matin.
Et tout de suite, c'est le journal présenté par Diane Berger. À la une, la marine israélienne met fin aux opérations du bateau humanitaire Madeleine.
Le navire affrété par l'organisation Freedom Flotilla Coalition a été intercepté dans les eaux internationales. Les 12 militants à bord espéraient rejoindre Gaza pour alerter sur le blocus humanitaire de l'enclave palestinienne. Ils devraient normalement être renvoyés dans leur pays d'origine. Aux États-Unis, la politique migratoire de Donald Trump continue de provoquer des tensions à Los Angeles. Troisième jour de manifestations, parfois violentes, contre les expulsions. Et l'annonce de l'envoi de la garde républicaine n'apaise pas la situation, loin de là. Nous irons aussi à Atlanta, où la communauté haïtienne s'inquiète de l'entrée en vigueur du travel ban, une interdiction d'entrée sur le sol américain pour les ressortissants de plusieurs pays. La surpêche menace pour les océans, c'est l'un des enjeux du sommet des Nations Unies qui s'ouvre à Nice ce matin. Nous reviendrons également dans ce journal sur l'Iran qui risque de nouvelles sanctions économiques pour manquement à ses engagements sur le nucléaire. Et en France, un an après son score record aux européennes, le Rassemblement national marque le coup en invitant de nombreuses figures de l'extrême droite du continent.
Les autorités israéliennes ont intercepté il y a quelques heures maintenant le navire de la Freedom Flotilla.
Le Madeleine ne pourra donc pas accoster à Gaza. Le bateau parti le 1er juin d'Italie a été stoppé. Il y avait à son bord 12 militants pro-palestiniens déterminés à rejoindre l'enclave palestinienne sous blocus pour amener de l'aide humanitaire et attirer l'attention sur la situation. Parmi les personnes qui étaient à bord, l'eurodéputée française Rima Hassan, son mouvement politique La France Insoumise dénonce des arrestations, je cite, illégales, car elles ont eu lieu dans les eaux internationales. Le ministère des Affaires étrangères israélien répond que l'opération s'est déroulée sans violence. Michel Paul.
Les choses se sont passées très vite après des annonces de la marine israélienne par radio et par mégaphone. Le Madeleine a été arraisonné par l'armée israélienne à environ 200 km au large de Gaza, selon l'ONG qui a affrété le voilier, dans les eaux internationales donc. Acte totalement illégal selon la coalition de la flottille de la liberté. Guerre des images, le ministère des Affaires étrangères israélien a montré sur son compte X l'équipage assis avec les mains en l'air au moment de l'abordage, notamment l'écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée Rima Hassan. On peut voir également des militaires qui distribuent des sandwichs et des bouteilles d'eau. Les passagers devraient rentrer dans leur pays d'origine. Ils sont sains et saufs, affirme encore un communiqué, qui indique de manière cynique que la petite quantité d'aide qui se trouvait sur le yacht et qui n'a pas été consommée par les célébrités sera transférée à Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné à ses services de projeter aux militants pro-palestiniens le film du massacre du 7 octobre 2023. Le ministère des Affaires étrangères israélien conclut pour sa part son communiqué par ces mots « Le show est maintenant terminé ». Michel Paul, Jérusalem, RFI.
De nouveaux affrontements entre policiers et manifestants à Los Angeles, en Californie.
Des dizaines de personnes ont bloqué ce dimanche après-midi une autoroute de la ville. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, y compris contre des journalistes. La mégapole californienne sous tension depuis trois jours. Les manifestants dénoncent les expulsions de migrants organisées par l'État fédéral. Donald Trump a de son côté annoncé le déploiement de la garde nationale sur place, ce qui n'apaise pas la situation. Les autorités locales démocrates dénoncent même un abus de pouvoir de la part du président américain et une stratégie qui attise les tensions. La politique migratoire ferme de la Maison-Blanche, c'est aussi le travel ban qui vient d'entrer en vigueur. Les ressortissants de 12 pays n'ont plus le droit de rejoindre le sol américain. Cela concerne notamment les personnes venues d'Afghanistan, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale ou encore d'Haïti. De quoi susciter de nombreuses inquiétudes chez les membre de la diaspora haïtienne, rencontré par notre correspondant à Atlanta, Edouard Maille.
Une émission de télé haïtienne est diffusée dans le salon de Lydia. La trentenaire vit aux États-Unis depuis 11 ans et a de la famille en Haïti. L'interdiction d'entrer sur le territoire pour les Haïtiens aura d'importantes conséquences selon elle.
Parce qu'il y a des gens qui font du business. Ils viennent ici pour acheter, pour aller revendre. I mean, il y a des gens qui viennent ici pour tas de choses, des raisons de santé, pour aller à l'hôpital, pour prendre des soins.
Pour Franz Bourget, trésorier de l'organisation du Front Uni pour la diaspora haïtienne, cette annonce suscite de nombreuses questions pour les Haïtiens qui vivent aux États-Unis.
How does that impact us that are, you know, Haitian American?
Comment est-ce que ça va nous toucher, nous les Haïtiens américains? On a toujours une forte connexion avec notre pays. Par exemple, pour le décès d'un proche, est-ce que l'on pourra aller en Haïti? Et qu'est-ce qui se passera au moment de rentrer aux États-Unis? Même ceux qui ont la nationalité américaine ont peur.
Après les propos de Donald Trump accusant les Haïtiens de manger des animaux de compagnie et l'annulation de mesures de protection pour les migrants, Franz Bourget ne serait pas surpris si Donald Trump prenait de nouvelles mesures contre les Haïtiens. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Et ce sujet au programme de votre émission Appel sur l'actualité ce matin à 10h10, heure de Paris. Juan Gomez attend vos réactions. Appelez-nous au 33 9 693 693 70. C'est à la une également ce matin, Diane, les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 12,7% en un mois.
Oui, ce sont les statistiques officielles publiées par Pékin ce lundi. Cela justement alors que des délégations américaines et chinoises doivent se retrouver dans les heures qui viennent à Londres, la suite des négociations sur la guerre commerciale entre les deux pays après une première rencontre mi-mai en Suisse.
Et il est urgent d'agir face à la pollution des mers.
C'est tout l'objet de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'ouvre ce lundi à Nice, dans le sud de la France, et à laquelle nous dédions une large partie de notre programmation cette semaine. Pendant 5 jours, les dirigeants d'une cinquantaine de pays vont donc tenter de se mettre d'accord sur une nouvelle série de mesures pour mieux protéger les océans. Parmi les enjeux cruciaux du sommet, il y a la question de la surpêche, notamment au large des côtes africaines. Christophe Boisbouvier a joint pour RFI Foga Agbetetosu, le responsable pour le Togo de l'ONG SOA, Sustainable Ocean Alliance, ce qui veut dire en français Alliance pour un océan durable. En ligne de Lomé, il explique par quelle combine les Chinois vendent clandestinement du poisson au Ghana. On l'écoute.
Ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'il y a des bateaux, des industriels provenant d'autres pays qui viennent effectuer ces surpêches au large du continent africain. Donc je crois que la conférence peut renforcer les mesures protectives contre cette surpêche.
Un accord a été rédigé qui vise à contrecarrer et éliminer la pêche illégale. 64% des États côtiers du monde ont signé cet accord, ce qui veut dire qu'il reste 36% des pays qui ne l'ont pas signé. Ce qui signifie qu'il y a de la résistance, non?
Bien sûr. Vous savez que même la Chine intervient au large de plusieurs pays africains. Au Ghana, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du psycho fishing. Donc, ce sont des Chinois qui viennent au large des côtes ghanéennes et qui font leurs activités de façon illicite et qui font même des transbordements, qui vendent des espèces juvéniles. Ils vont jusqu'aux espèces juvéniles, les vendent aux pêcheurs traditionnels qui reviennent les vendre sur les continents.
Foga Agbetosu, qui est disponible aussi sur notre site www.rfi.fr, une interview plus longue disponible. Il était l'invité Afrique de RFI.
Et ce sommet des Nations Unies sur l'océan et ses enjeux, on y revient sur notre site internet également. Autre réunion cruciale qui commence aujourd'hui, Diane, le conseil des gouverneurs à l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, en Autriche, et c'est l'objet de ce journal.
De ce dossier, de ce journal, effectivement, avec un enjeu majeur, l'Iran qui pourrait se voir infliger de nouvelles sanctions économiques pour manquement à ses engagements sur le nucléaire. Pour en parler, nous sommes rejoints en studio par Pierre Olivier. Bonjour Pierre.
Bonjour.
C'est à cette occasion donc que sera présenté le dernier rapport sur le nucléaire iranien.
Oui, déjà certaines informations ont fuité et selon l'AIEA, l'Iran continue d'accélérer son rythme d'enrichissement de l'uranium. Écoutez, Héloïse Fayet, chercheuse à l'IFRI, spécialiste du nucléaire.
Donc l'Iran n'a jamais possédé autant d'uranium enrichi qu'aujourd'hui. La quantité d'uranium enrichi à plus de 60% a quasiment doublé entre le début de l'année et aujourd'hui. Donc on estime aujourd'hui qu'il possède environ 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui en fait ne fait que les rapprocher d'une possible acquisition d'une arme nucléaire si la décision politique est prise.
Mais Pierre, l'Iran réfute toute volonté de développer la bombe atomique.
Et le pays assure qu'il ne se concentre que sur le nucléaire civil. Ce dimanche, Téhéran a même menacé de réduire sa coopération avec l'AIEA si, lors de cette réunion, une résolution contre l'Iran est adoptée par Washington et les Européens. Écoutez, Clément Terme, chercheur à l'Institut d'études iraniennes.
pour la République islamique d'Iran, si une résolution est adoptée condamnant les activités nucléaires iraniennes, ce serait un échec dans la stratégie de division entre d'un côté l'administration Trump et de notre côté les Européens. Puisque la République islamique s'efforce toujours de diviser le camp occidental. Sur le fond, il sera très difficile de parvenir à un accord.
Que craint l'Iran exactement avec cette résolution ?
Alors d'abord, vous l'avez entendu, Téhéran voit d'un mauvais œil cette unité entre Washington et l'Europe, notamment Paris, Londres et Berlin, car ensemble, ces capitales peuvent contraindre la République islamique à plus de transparence sur ses activités nucléaires. Et puis, il y a la menace que le dossier soit renvoyé devant les Nations Unies et le risque de sanctions qui va avec.
Même si désormais, Pierre, deux des cinq membres du Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie, soutiennent l'Iran et pourraient mettre leur veto à de nouvelles sanctions.
Alors justement, non, car il y a une petite subtilité qui avait été inclue dans l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien. Ça s'appelle le snapback. Explication, Héloïse Fayet.
C'est une disposition qui permet, si un État le décide, de réimplémenter des sanctions qui avaient été levées sur l'Iran. Et ceci peut se faire sans l'accord en fait de la Chine ou de la Russie. C'est une décision qui se fait sans veto. Donc là, en fait, on s'attend potentiellement à ce qu'une décision sur le snapback soit prise à la réunion du Conseil des gouverneurs.
Alors pour l'instant, rien n'est fait. Et selon plusieurs diplomates, le Conseil des gouverneurs pourrait aussi préserver au maximum la voie diplomatique et donner une dernière chance à Téhéran en lui imposant d'abord de faciliter le travail des inspecteurs de l'AIEA. Mais s'il y L'Iran ne montre pas de signe de bonne volonté. Le dossier pourrait être transféré dès cet été aux Nations Unies.
Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Le constructeur français Renault confirme avoir été approché par le ministère des armées français pour s'implanter en Ukraine et produire des drones destinés à l'armée de Kiev pour faire face à la Russie. Le groupe français assure ne pas encore avoir pris de décision définitive.
En France, c'était il y a un an très exactement la dissolution de l'Assemblée nationale.
Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron surprend toute la classe politique avec cette annonce qui provoque des législatives anticipées, et cela après le score historique du RN aux européennes. Le Rassemblement National avait obtenu près de 32% des suffrages. Un succès pour le mouvement d'extrême droite. Alors pour marquer le coup, le parti à la flamme organise en ce lundi de Pentecôte ce qu'il appelle une fête de la victoire dans le Loiret. Raphaël Delvolvé.
Si ce meeting champêtre se veut festif, il n'en reste pas moins ultra-politique en réussissant à faire venir, comme cela est annoncé, le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban ou le vice-premier ministre italien Matteo Salvini à Mormant-sur-Vernisson, 130 habitants. Le parti de Marine Le Pen entend montrer sa nouvelle notoriété internationale. Quelque chose s'est passé il y a un an, se souvient un élu proche de la direction du RN, avec Patriots for Europe, leur groupe de 85 députés, dont 29 RN à Strasbourg. L'extrême droite européenne reste minoritaire, mais n'a jamais été aussi puissante. Le parti à la flamme veut encore capitaliser dessus, même si en un an, il y a aussi eu des déconvenues, la défaite aux législatives anticipées de juillet et la condamnation potentiellement fatale pour la présidentielle de Marine Le Pen en mars dernier. Cela pourrait d'ailleurs être l'un des axes des discours anti-système attendus dans le Loiret. Un soutien de dirigeants étrangers à Marine Le Pen serait le bienvenu, espère un proche de la toujours candidate pour 2027.
Carlos Alcaraz garde sa couronne à Roland-Garros. Il a remporté hier la finale du tournoi de tennis parisien pour la deuxième fois de sa carrière. Une victoire arrachée contre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner.
Allez, on parle depuis ce matin, vous le savez, des enjeux du sommet de Nice sur l'océan. Le sommet des Nations Unies, les mers qui couvrent 70% de la planète, irriguent aussi le monde des arts.
Et oui, la Biennale de Nice consacre justement son édition 2025 aux océans, avec des œuvres d'art exposées notamment dans l'espace public pour créer un parcours accessible à tous. Lisa Giroldini.
Pour la première fois, la Biennale des Arts sort des musées pour habiter les rues de la ville, faisant de Nice un musée à ciel ouvert. De la promenade des Anglais à la tour Bellanda, en passant par la coulée verte, les œuvres d'art s'intègrent parfaitement au paysage niçois. L'artiste Laure Prouveau expose une immense sculpture en bronze de son animal totem, une pieuvre, sortie d'un monde sous-marin pour apparaître sur la pelouse du centre-ville.
Cette pieuvre, elle a voyagé, elle a plein de petits éléments, elle accueille un petit bassin pour les oiseaux, elle propose de vivre ensemble et de devenir pieuvre aussi. Les enfants, j'espère, rentreront, se cacheront, deviendront le cerveau d'une pieuvre.
Plus loin, sur les anciennes murailles de la vieille ville, on peut lire « Songez la vague sur un horizon, une promesse ». Une poésie exposée face à la mer de l'artiste malgache Joël Andriano Meharizoa.
Je propose qu'on songe effectivement à une nouvelle poésie de l'horizon. C'est une pièce française qui est à Nice, mais qui en tous les cas qui nous transporte ailleurs, sur une vague, pour qu'on essaie d'imaginer, ou en tous les cas de songer à une autre poésie, un autre rapport aux choses.
Quatre autres œuvres composent ce parcours dans l'espace public, éco-artistique des grands enjeux débattus à la conférence des Nations Unies sur l'océan.
Un reportage de Lisa Giroldini du service culture de RFI.
Merci Diane Berger, RFI, tout de suite la revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour
ça
à tous.
Mal. À la une, Trump déploie l'armée à Los Angeles.
Des manifestants pacifiques à Los Angeles brandissant des pancartes contre la politique de lutte contre l'immigration imposée par Donald Trump, mais aussi des voitures incendiées et des scènes d'affrontements avec les forces de l'ordre, ce sont les images à la une de la presse internationale en ce lundi matin. Hier, le président américain a donc déployé la garde nationale pour tenter de ramener le calme, mais ce déploiement a, semble-t-il, au contraire, jeté de l'huile sur le feu. C'est du moins ce que constate le Los Angeles Times. Les forces de l'ordre ont affronté des manifestants hier après-midi dans le centre-ville de Los Angeles après l'arrivée des troupes de la garde nationale à la demande du président Trump. En effet, renchérit le Boston Globe, les manifestations s'intensifient à Los Angeles après le déploiement par Trump de centaines de soldats de la garde nationale. Pour sa part, constate le Washington Post, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, demande officiellement à l'administration Trump d'annuler le déploiement des troupes de la garde nationale dans le comté de Los Angeles qu'il juge illégal.
En fait, commente le New York Times, le vrai problème, c'est en effet le recours à l'armée.
Oui, la garde nationale est généralement déployée dans les villes américaines lors de situations d'urgence, précise le journal, telles que les catastrophes naturelles et les troubles civils, ou bien pour apporter un soutien lors de crises de santé publique, lorsque les autorités locales ont besoin de ressources ou d'effectifs supplémentaires. Rien n'indique que cela ait été nécessaire ou souhaité à Los Angeles ce week-end, s'exclame le New York Times, où les forces de l'ordre local ont pour l'essentiel maîtrisé les manifestations contre les raids fédéraux en matière d'immigration. L'ordre du président Trump est fondé sur de faux prétextes et il est déjà en train de créer le chaos qu'il était censé prévenir. Et le New York Times de s'interroger où sont les limites? Un président peut-il ordonner à des troupes de combat de répondre à ses caprices? Et en fin de compte, à qui et à quoi sert l'armée américaine? Au public américain ou bien à l'agenda politique du président.
Autre analyse pour le New York Post, quotidien conservateur proche de la présidence.
Jusqu'à quel point les démocrates auraient-ils laissé aller les émeutes de Los Angeles si Trump n'avait pas envoyé la garde nationale, s'interroge le journal. Le fait est, poursuit le New York Post, qu'un président démocrate, Joe Biden, a fait entrer durant son mandat 10 millions de migrants illégaux à l'intérieur du pays et que la nation a réagi en élisant Trump pour renvoyer ces masses chez elle, en commençant par les criminels et par ceux qui ont épuisé leur droit à rester dans le pays. Mais de Newark à New York, de Chicago à Los Angeles, les démocrates prêchent l'anarchie, s'exclame encore le New York Post, prétendant que les agents d'immigration n'ont aucun droit légal d'arrêter les personnes en situation irrégulière.
La presse européenne, de son côté, est plutôt critique.
Oui, pour le Süddeutsche Zeitung à Munich, Trump joue désormais avec le feu, car les agents en uniforme déployés à ses côtés ne contribueront guère à apaiser la situation. De plus en plus d'Américains sont consternés par le traitement réservé par le gouvernement aux immigrants considérés comme illégaux, alors même que nombre d'entre eux vivent, travaillent et paient des impôts aux États-Unis depuis des années, voire des décennies. Par ailleurs, poursuit le quotidien allemand, Trump cherche également à affronter les dirigeants californiens, car cette région la plus importante du pays est gouvernée par les démocrates. Il veut démontrer, comme il a tenté de le faire après les incendies de janvier, que les démocrates ne savent pas gérer leur territoire. D'autant que le gouverneur Newsom, qui prendra sa retraite après les élections de 2026, pourrait bien se présenter à la présidence en 2028.
Enfin, pour le Guardian à Londres, Trump fait diversion.
Oui, les manifestations à Los Angeles contre les raids des services de l'immigration lui offrent un front qui focalise la colère, la haine et la peur, détournant ainsi les critiques de son action vers un soi-disant ennemi intérieur. Trump est passé maître dans l'art de la diversion, affirme encore le Guardian, et à l'aide d'images sordides de droite, il cherche à détourner l'attention de ses échecs politiques et de sa querelle avec Elon Musk.
Frédéric Couteau pour la revue de presse sur RFI. Le sujet fait la une. Depuis plus d'un an et demi, la guerre dans la bande de Gaza, territoire totalement fermé à la presse étrangère, seul témoin et relais de l'information dans l'enclave, les journalistes gazaouis qui nous informent au péril de leur vie. Ils sont plus de 200 d'ailleurs à avoir été tués sur place depuis le 7 octobre 2023. Un média détonne toutefois dans ce paysage médiatique verrouillé, le site d'information Plus 972 pour lequel travaillent conjointement une vingtaine de journalistes israéliens et palestiniens afin de raconter au mieux l'actualité de cette terre qu'ils ont en partage. Alors, à quoi ressemble le quotidien de cette rédaction ? Amira Suilem est allée à la rencontre des équipes en Israël, mais aussi en Cisjordanie occupée. Reportage.
Ce soir encore à Tel Aviv, des centaines d'Israéliens manifestent pour demander la fin de la guerre à Gaza. Des photos d'enfants gazaouis à la main. Ils espèrent créer un électrochoc dans l'opinion publique. Dans la foule, caché derrière son objectif, Oren Ziv, journaliste israélien.
La première semaine de guerre, juste après le 7 octobre, le chef de la police a dit aux manifestants que si certains voulaient manifester en solidarité avec Gaza, ils pouvaient affréter des bus pour les envoyer là-bas. C'est important d'être là parce que cette mobilisation vise à faire en sorte que les Israéliens réalisent ce qu'il se passe réellement à Gaza.
Oren Ziv travaille pour le site d'information Plus 972. Un clin d'œil à l'indicatif téléphonique d'Israël. Sa vocation est né pendant la seconde intifada au début des années 2000. Il cherche alors à comprendre pourquoi ses voisins jettent des pierres et s'engage dans une association israélo-palestinienne. L'engagement, c'est l'ADN de Plus 972. Ses locaux sont basés à Tel Aviv. Roussoun Bicharat en est la rédactrice en chef. Elle est palestinienne d'Israël.
Le génocide à Gaza et les atrocités du 7 octobre, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de cruauté. On est tous encore traumatisés par ce qui se passe et on ne s'en remet toujours pas. Je crois que la seule solution, c'est d'avoir un État binational où Palestiniens comme Juifs israéliens vivent ensemble.
Le rêve de liberté pour tous semble bien loin pour le moment. À une centaine de kilomètres de là, en Cisjordanie occupée, Bess El Hadra est l'un des reporters palestiniens du site d'information. En mars dernier, il a remporté à Hollywood l'Oscar du meilleur documentaire pour son film No Other Land. Il y racontait le quotidien de son village soumis à la violence des colons israéliens. Parce qu'il travaille avec des Israéliens, le jeune homme a essuyé des critiques de la part de certains de ses compatriotes. Il tente de passer outre ces remarques qu'il juge déconnectées des réalités et binaires.
Hier, des activistes israéliens ont reçu des coups de la part des colons et la police n'a rien fait pour les protéger alors qu'ils sont israéliens. Et ce type de militantisme qui tente de montrer la réalité, c'est important.
De Tel Aviv au village de Cisjordanie occupée, les membres de Plus 972 continuent de penser que le cycle de la violence et de l'injustice peut être rompu. Eux feront tout pour. Amira Suilem, Tel Aviv, RFI.
En Corée du Nord, les autorités tentent de comprendre pourquoi, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, une panne d'internet a paralysé plusieurs sites importants. Pour en parler, on retrouve tout de suite Camille Ruiz à Séoul. Camille, bonjour. Alors, est-ce qu'on connaît, Camille, les raisons de ce dysfonctionnement ?
Bonjour. Non, c'est très difficile de savoir avec précision. On le sait, la Corée du Nord est un des pays les plus fermés au monde, si ce n'est le plus fermé. Mais il y a des hypothèses. Certains chercheurs qui travaillent sur le sujet ont remarqué que les connexions avec des pays voisins comme la Chine et la Russie avaient aussi subi des perturbations. Donc c'est plutôt la piste d'une cause interne qui est privilégiée et non une cyberattaque. Et c'est intéressant que les chercheurs le précisent, même si ce ne sont encore une fois que des hypothèses, parce que la Corée du Nord a déjà été victime de cyberattaques.
Et vous nous citez cet exemple de 2022, Camille.
Oui, un hacker américain indépendant s'était vengé après avoir été la cible de pirates nord-coréens qui visent en général plutôt des organisations gouvernementales, des entreprises et même parfois des hôpitaux. Ce hacker s'en était pris au serveur nord-coréen et avait réussi à couper entre autres l'accès au site du principal journal du pays, le Rodong Shinmun. Mais en ce qui concerne la panne de samedi, les experts estiment donc que la piste privilégiée n'est pas celle d'une cyberattaque. La coupure en elle-même a duré environ 9 heures. Vous l'avez dit, plusieurs sites importants ont été affectés, comme celui du ministère des Affaires étrangères, de la compagnie aérienne nationale Air Koryo ou encore le site de la presse d'État. Mais pour le moment, on n'a pas assez d'éléments pour décrypter exactement ce qu'il s'est passé.
Et Camille, est-ce qu'on sait combien d'utilisateurs ont été affectés ?
Non, on ne sait pas. En fait, la population nord-coréenne n'a pas dans son entièreté accès à Internet. Une partie des habitants utilise une sorte d'intranet. C'est un système qui propose des services comme une messagerie ou des sites web, mais qui reste totalement coupé du monde. Et d'ailleurs, les sites web appartiennent à des universités ou aux centres informatiques du gouvernement. Seule une élite triée sur le volet possède une connexion reliée au web international. C'est environ 1% de la population. Et donc, ce sont des hauts fonctionnaires, des diplomates ou des touristes étrangers. Dans la capitale, à Pyongyang, il y a par exemple une connexion Wi-Fi qui s'appelle Mire. Et selon des chercheurs du site d'analyse spécialisé 38 North, 38 Nord en français, les utilisateurs doivent avoir un mot de passe, une carte SIM, mais surtout un appareil qui est autorisé à se connecter à ce Wi-Fi pour pouvoir l'utiliser. En tout, dans le pays, on compterait environ 1 000 000 d'adresses IP pour seulement 25 millions d'habitants.
Camille Ruiz en ligne de Séoul avec nous ce matin. Merci à vous, RFI. Tout de suite, c'est notre question d'environnement. Et on parle des océans aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du sommet dédié à Nice, dans le sud de la France. Événement co-présidé par la France et le Costa Rica. Et les enjeux sont nombreux. Florent Guignard, pourquoi il est important ce sommet ?
Eh bien parce que les océans sont importants par la taille. D'abord, ce qu'on appelle la Terre est en fait recouverte à 70% de mer et d'océan. Dans les océans, il y a 1 milliard 400 millions de kilomètres cubes d'eau. Oui, c'est énorme. 97% de l'eau présente sur la planète. En fait, c'est de l'eau salée, l'eau de la mer et de l'océan.
Et dans cette immensité, il y a de la vie.
Oui, c'est même là, quelque part, dans l'océan, à une époque où il n'y avait pas encore de continent, de terre émergée, que la première forme de vie est apparue, il y a 3 milliards d'années environ, c'était 1,5 milliard d'années après la naissance de la Terre. La génétique d'ailleurs l'a montré, tous les êtres vivants, vous, nous tous, Andréane, tous les êtres vivants sur Terre et en mer aujourd'hui ont de l'ADN issu de ces premières formes de vie microscopique. Et si on est là, eh bien c'est grâce au plancton et à la première révolution énergétique qui l'a rendu possible, la photosynthèse qui a transformé la lumière du soleil en énergie et qui a produit de l'oxygène. Tout ce qui est à la base de la vie s'est produit dans les océans.
Ce qui nous amène, Florent, vous en parliez, au rôle majeur du plancton.
Les microalgues produisent donc de l'oxygène, on l'a dit. Le plancton, il séquestre aussi du CO2, le principal gaz responsable du réchauffement climatique. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du rôle des forêts, des arbres, mais en mer, dans les océans, il y a des forêts marines. Ce plancton qui absorbe près de 30% du CO2. Les océans sont des puits de carbone. Ils sont aussi des puits de chaleur. Ils absorbent 90% de l'excès de chaleur provoqué par le changement climatique. Ils ont en fait un rôle majeur dans la régulation du climat qui serait beaucoup plus extrême sans les océans. Et puis pour en revenir au plancton, il est aussi majeur parce qu'il est à la base de la chaîne alimentaire. Sans plancton, il n'y a pas de poisson.
Et c'est ce que vous nous dites à présent, Florence, c'est ce que nous apportent aussi les océans, de quoi nous alimenter ?
Oui, plus de 3 milliards d'humains dépendent du poisson pour se nourrir. Près d'un milliard vivent de la pêche et de l'aquaculture, mais comme le dit le WWF, le Fonds mondial pour la nature, nos océans sont en faillite, la surpêche menace toute la biodiversité marine, si riche et si fascinante à l'image de la baleine bleue, le plus grand animal de la planète, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure à 14h10 TU dans l'émission autour de la question, ce sera en direct de Nice.
Et pourtant les humains, Florent, détruisent les océans.
Oui, chaque minute 15 tonnes de plastique atterrissent dans les océans, l'excès de carbone provoqué par les activités humaines rend les océans plus acides et ça menace aussi la biodiversité. Donc vous l'avez compris, sans les océans, ce serait la catastrophe et nous, humains, nous ne serions pas là, nous ne serions plus là. La vie sur Terre dépend de la vie en mer.
Merci Florent Guignard. Et RFI vous parle toute la semaine des océans. Édition spéciale à suivre tout à l'heure, 13h10, hors de Paris avec Anne Cantner et ses invités en direct de Nice. Nos articles et nos analyses à retrouver aussi sur notre site RFI.fr.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Marjorie Bertin.
Comment photographier la mer et les océans ? À l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan, nous recevons le photographe Jean Gomy, dont l'œuvre est exposée au Musée de la Marine, et sa commissaire Marion Vessière, pour une immersion passionnante, la pêche au-delà du cliché.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Du 19 au 21 juin, le festival Gnawa et Musique du Monde revient à Essaouira plus vivant et plus intense que jamais. Trois jours de fêtes, de transes et de rencontres exceptionnelles. Plus de 30 madeleines seront entourées d'artistes venus des quatre coins de la planète. Sima Funk, Abera Labed, Rokia Kone, Dafer Youssef, Sike, Marcus Gilmore et bien d'autres. À Essaouira, les frontières tombent, les cœurs s'accordent et la musique unit. Rejoignez-nous du 19 au 21 juin 2025 pour un festival pas comme les autres. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
En partenariat avec RFI.